franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La scène terroriste, première donc d'une série de 4 émissions avant le rendez-vous de New York, et première invitée, Catherine Berthaud-Lavenir, professeure à l'université Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous avez animé naguère un numéro d'une revue d'une grande réputation, les Cahiers de médiologie, qui portait pour titre celui que nous avons choisi.
La scène terroriste.
Alors aujourd'hui, on va utiliser le mot terroriste comme un adjectif, comme ça on évitera un certain nombre d'usages inconsidérés ou prématurés du substantif terrorisme, substantif piégé tant les définitions qu'on peut en proposer varient selon les points de vue, selon les époques. Aujourd'hui, on va parler d'abord des attentateurs, c'est ainsi qu'on le disait.
Oui, le mot terroriste, on va le voir, est apparu dans un contexte extrêmement particulier. Et effectivement, on pouvait dire les criminels aussi.
Dans la première moitié du 19e siècle, préférait donc le mot criminel ou le mot attentateur. Et notre thème, les âges différents qu'a traversé l'attentat des attentateurs depuis ce premier 19e siècle. Des âges différents parce que l'usage de machines de plus en plus infernales a permis à l'attentat de faire de plus en plus de dégâts. Et des âges différents parce que l'évolution des moyens de communication qui vous passionne, Catherine Berthaud-Lavenir, a permis à l'épouvante d'obtenir de plus en plus d'écho. Mais les progrès dans l'épouvante n'ont pas empêché les modèles anciens de perdurer. Le bon vieux stylet de proximité, vous savez qu'on sort de sa poche, on approche discrètement la personnalité à assassiner.
Je vous offre une glace à l'embarcadère.
Non, c'est impossible.
Pourquoi ?
On m'y a reconnu cet après-midi.
Elle, là-bas, tu sais qui c'est ?
Non, qui c'est ?
L'impératrice d'Autriche. L'impératrice errante, on l'appelle. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas elle, là-bas, peut-être ?
Oh ! Mon Dieu ! Un médecin !
Je suis désolé. Elle est morte. Elle a été assassinée.
Vous avez reconnu les mouettes du lac Léman dans le film Sissi, impératrice, et l'assassinat en 1898 d'Élisabeth d'Autriche à Genève. Là, le corps mince de l'impératrice anorexique et gymnaste est préservé avec le stylet.
Oui, et surtout, ça demande aux terroristes qu'ils puissent s'approcher extrêmement près d'elle, mais aussi ils ne tuent qu'une seule personne à la fois. Donc c'est tout à fait différent, par exemple, d'un acte terroriste où on tuerait une dizaine de personnes avec une bombe ou une centaine de personnes, ou bien on choisirait des gens pas connus. Donc on peut faire un petit peu une histoire des moments du terrorisme en s'intéressant à la fois aux technologies, hein, un stylet ou une bombe, c'est une technologie, mais aussi au rapport que ça a avec les cibles qu'on choisit, puis la signification que ça donne à l'acte.
Point de départ d'une nouvelle forme, Noël 1800. C'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Là, le regard va être sidéré, l'oreille saturée par le bruit de l'explosion. Le premier consul, Napoléon Bonaparte, se rendait à l'opéra et...
Il y a des victimes ?
Là, de mort, c'est horrible !
Alors, Murat, une bombe, c'est une bombe !
La Providence, veillez sur vous.
C'est pas la Providence que j'ai nommé ministre de la police, Fouché, c'est vous.
Sous 8 jours, je connaîtrai les coupables. En attendant, il faut vous montrer. Donnez à penser aux gens que vous êtes invulnérables. Dans 30 minutes, levez de rideau à l'opéra.
J'y serai.
Ramenez-moi le Rhesus Fall au poste.
Monsieur, les pauvres demandent qu'on leur distribue la viande.
Ça a été après, la vérité d'abord. Allez ! Avec les morceaux récupérés, j'ai fait reconstituer l'animal. Son portrait a été montré à tous les maquillons de Paris. L'un d'eux croit se souvenir à qui il a été vendu. Un agitateur royaliste.
Donc pour vous, l'attentat est signé ?
C'est évident.
Trop simple. Les royalistes se réclament de Dieu. Ils n'auraient jamais choisi une nuit de Noël pour perpétrer un aussi abominable crime.
Et pourquoi les royalistes voudraient-ils ma mort? J'ai mis fin aux excès de la Révolution. Les prêtres ne sont plus persécutés, les émigrés sont pardonnés. Non. Cherchez plutôt du côté de ceux qui se vantent de n'avoir ni Dieu ni maître. Les anarchistes, les nostalgiques de la terreur, les jacobins.
Alors, effectivement, ça, à mon avis, c'est un petit peu le point de départ, en tout cas en Europe, des attentats terroristes, entre guillemets. Ce qui est le plus intéressant qu'on va retenir là, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est extrêmement impressionnant. On va le retrouver ensuite dans des gravures où on voit dans les rues de Paris volant au-dessus des toits des morceaux de chevaux, une petite fille qui a été tuée dont le corps est envoyé en l'air. Elle tenait des chevaux, on lui avait demandé de tenir des chevaux à la porte d'un estaminet. Donc c'est très impressionnant, ça fait peur.
Le carnage.
Le carnage, et on se demande... comment on va interpréter ça? Et c'est le début de quelque chose qui est caractéristique de tous les actes terroristes, c'est que les auteurs de l'acte, ils mettent en scène quelque chose, ils créent un événement, mais que le sens qu'on va donner à cet événement, son interprétation, ça se fait largement en leur absence, puisque par principe, c'est plutôt des gens qui sont dans des sociétés secrètes, qui n'ont pas accès aux grands médias de l'époque.
Il faut dire que de l'entremêlement des corps, de la saturation de l'espace sonore, de l'épouvante, comme dit Sofsky, très beau livre sur l'épouvante de Wolfgang Soski, il est très difficile de tirer un enseignement lisible.
Effectivement, mais ça permet de mettre ça, disons, au premier plan. Hein, c'est un événement très important. Donc tous les regards, toute l'oreille converge vers cet événement et on va essayer de le comprendre. Et
vous avez négligé quand même une chose, Catherine Berthaud, l'avenir, vous qui vous intéressez tellement à la technique. Il y a une machine infernale, là, c'est pas le petit stylet qu'on tient dans sa poche comme... dans le cas de l'assassinat de Sissi.
Alors, à la fois, il y a des médias, on va en parler, puis il y a les machines infernales. Alors, les machines infernales, c'est un essai d'efficacité par des gens qui n'ont en général pas accès aux grandes technologies. Et ils vont donc faire des choses avec de la poudre et des clous. Ça, c'est le début du 19e siècle, jusqu'au moment, on le verra plus tard, après 1880, où va arriver la dynamite. Mais pour l'instant, on est dans des systèmes avec, en gros, en général, de la poudre et des clous. Et ils essaient toutes les dispositions possibles. On a aussi d'autres machines infernales où il y a des fusils qui sont en batterie sur le bord d'une fenêtre, qu'on puisse déclencher tous en même temps. Alors, si vous allez au musée de la préfecture de police, vous allez retrouver, y compris des reconstitutions, parce que les services de police étaient très sérieux, et donc ils savaient très bien eux-mêmes fabriquer des machines infernales.
Alors, le préfet de police et le ministre de la police, on l'entendait Fouché, discutent avec Napoléon Bonaparte, ce jour, le 24 décembre 1800, de l'interprétation à donner.
Alors, évidemment, on va vite trouver... les spécialistes que sont les policiers vont vite trouver que les auteurs, c'est plutôt des royalistes. Mais ce n'est pas très intéressant politiquement de continuer à opposer le premier consul et les royalistes. En revanche, Fouché, il a très envie de se débarrasser des anciens gauchistes de la Révolution, ceux qui ont fait la terreur de 93-94, et qu'on appelle les terroristes. Et il va donc tout mettre en œuvre pour attribuer cet attentat aux terroristes en opérant un glissement de sens qui n'est que le premier d'une très longue succession de manipulations de la signification d'un attentat.
Alors, il y a deux désirs différents, celui du premier consul et celui de Fouché. Fouché va mettre au point quand même une méthode d'enquête. Il faut que vous nous en disiez un mot. On reconstitue l'image de la jument et puis on va promener les marchands de chevaux à la préfecture de police devant l'image de la jument et on va trouver l'endroit où la jument a été vendue.
Alors là, on est au début des techniques d'enquête policière, mais ce qui nous intéresse, si on revient à la scène terroriste, c'est que le résultat qu'il va trouver n'est pas du tout celui qui l'intéresse politiquement d'utiliser. Donc, il ne va pas l'utiliser.
Enfin, quand même, il y aura des procès à la fois contre les royalistes et contre les jacobins, une petite vague d'exécution en 1801. L'écho médiatique, il est contrôlé par le pouvoir. Les dépêches, on en donne communication quand on est préfet, quand on le veut bien. Et puis, il y a juste des canards, des rumeurs, très peu de journaux qui ont une distribution massive.
Oui, il faut bien imaginer que les Français, d'abord c'est eux qui sont intéressés au premier chef, peut-être un peu aussi les Italiens, les Français savent pas lire pour une très grande partie. Donc l'opinion, elle est construite à la fois dans un domaine un peu officiel, avec les dépêches officielles, avec le jugement. C'est très souvent lors du jugement que les accusés peuvent dire eux-mêmes, ils ont enfin la parole pour dire la signification de leur acte à leurs yeux. Ce qui fait que d'ailleurs, des fois, on les empêche de parler. Et puis il y a la rumeur, le on-dit, ce qu'il y a qui se propage dans les cabarets de Paris, ça on le sait par les rapports des espions. Et donc, il n'y a pas un contrôle complet de la signification de l'acte.
Premier acte de la scène terroriste qui va durer comme ça jusqu'au Second Empire. On ne va pas parler des attentats contre Louis-Philippe, puis des attentats contre Napoléon III, très nombreux, qui obéissent au même modèle, mais nous intéresser, comme dans le numéro des Cahiers médiologiques que vous dirigez, la scène terroriste. Au moment d'après 1880, là, il y a une grande extension géographique du phénomène dans toute l'Europe et même aux États-Unis, puisqu'un président y est assassiné en 1901. Mais la France tient son rôle haut et fort avec un sommet grâce aux anarchistes en 92-94.
Émile Henry passe alors en Angleterre, où il fréquente les milieux anarchistes, se rend ensuite à Bruxelles et après plusieurs déplacements revient à Paris en janvier 1894. Caché alors à Ménilmontant, au numéro 3 de la rue des Envierges, où il avait loué une chambre, il prépare un autre engin, une marmite bourrée de balles, d'explosifs et d'une cartouche de dynamite, avec une amorce aux fulminates de mercure et une mèche qui peut brûler 15 secondes. Le 12 février 1894, à la tombée de la nuit, il emporte avec sa bombe un revolver, un couteau quadrangulaire dont la lame est empoisonnée, un couteau harceur et un coup de poing américain. Il gagne l'avenue de l'Opéra, qui pour lui symbolise la richesse, hésite entre plusieurs cafés qui ne lui paraissent pas assez garnis, erre jusqu'à la gare Saint-Lazare et entre finalement au terminus. Il se fait servir une consommation. À 9h, il allume la mèche et jette en l'air la bombe qui heurte un lustre, tombe et éclate, tuant une personne, en blessant une vingtaine. Émile Henry crie pour détourner l'attention « Ah, le misérable, où est-il ?» ce qui lui permet de se sauver. Mais il a été remarqué. Et dans la rue, ils tirent sur ceux qu'ils poursuivent jusqu'à ce qu'ils soient maîtrisés.
Alors, ce qui était intéressant, à mon avis, dans ce que nous venons d'entendre, c'est d'abord l'extraordinaire attention portée à la description des armes. Et on peut, d'abord, ça se retrouve à la préfecture de police. Je vous ai dit que les policiers vont refaire exploser des machines pour voir comment elles sont faites. On va aussi aller s'intéresser où est-ce qu'on peut acheter les éléments au cas où il y aurait d'autres gens, que ça se propagerait dans la société, d'autres gens qui voudraient le faire. Donc, il y a vraiment un intérêt pour l'outil de l'attentat.
Et là apparaît de la dynamite, avant pour les signaler par Jean-Marc Isaac qui faisait le récit.
Et puis, il y a aussi l'idée de la signification de cette scène terroriste. On a vu qu'il pourrait chercher un personnage célèbre. Et là, ça veut dire que le gouvernement est faible. Je peux tuer le président, je peux tuer l'empereur, je peux tuer un prince. Mais il va, c'est assez nouveau, tuer n'importe qui. Il cherche un café. Et le symbole est un peu faible. Le symbole, c'est un café où les gens sont riches. Ils ne sont pas particulièrement riches rue de l'Opéra. Oui, ils sont riches. Mais... Et donc, c'est quelque chose qui va avec l'âge démocratique. On tue n'importe qui pour dire « cette société est faible, elle ne vous protège pas ». Votre gouvernement ne vous protège pas. Il y a une alternative. Il y a nous. Nous sommes puissants. Nous sommes là. C'est surtout nous sommes là. Et ça va marcher avec la représentation dans la grande presse populaire qui existe juste à ce moment-là.
Bah oui, le supplément illustré du Petit Parisien et du Petit Journal, ça coïncide avec l'avènement de cette deuxième époque de l'attentat qui, rassurons-nous, touche quand même les députés. Il y a une bombe jetée par Vaillant en 93 du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Cassériau, tue le président Sadi Carnot en 1894. Tout de même, ces événements provoquent à la fois de l'inquiétude jusqu'à la panique. Ça va s'arrêter quand ? N'importe qui peut être touché. Et pour certains dans l'opinion, une attraction. Ravachol, qui a été à l'origine de ce mouvement en 92, n'est pas un homme nécessairement très sympathique. Il a violé la sépulture d'une baronne, il a tué un ermite, il va tuer deux quincaillères. Et pourtant...
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
Il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues.
Vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues. Vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole. Vive le son, vive le son. Dansons la ravachole. Vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus.
Il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus.
Il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Mort à la bourgeoisie,
vive le son, vive le son.
Mort à la bourgeoisie, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Catherine Berthaud-Lavenir, la scène terroriste. Sébastien Faure, anarchiste, a composé sur l'air de la Carmagnole. Cette chanson interprétée ici par les quatre barbus. L'opinion, elle est partagée.
Alors, vous voyez, c'est absolument extraordinaire, les paroles de cette chanson. On ne pouvait pas la diffuser. Hein. On la chantait dans des cabarets, on la chantait entre amis, entre connaissances. Ça avait un côté de provocation. Ça va aussi avec toute une culture, justement, de la provocation, du refus de l'ordre bourgeois qui était extrêmement dur, du refus du travail, de tous ces gens qui étaient en marge de la société, d'une société très dure, très, très violente, très, très, très dure pour les pauvres. Et donc, un désir délibéré de se mettre en marge. À la limite, ces paroles, on ne pourrait pas les dire sérieusement à la radio aujourd'hui. Hein.
Un désir de se mettre en marge, un désir de se justifier. Quand Ravachol est dans son procès à la barre, il essaye de dire qu'il défend le peuple contre les bourgeois. Et dans tous les pays d'Europe où s'étend le terrorisme, on a parlé de l'Autriche, on a parlé de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, on va parler de la Russie, le souci de l'opinion touche un certain nombre de terroristes au moins. En témoigne cet extrait des Justes de Camus qui restitue un débat entre Dora, Yannick, le chef d'une organisation terroriste, à la suite d'un des innombrables attentats contre les grands-ducs en Russie.
L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc.
C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner les enfants.
Yannick a raison, ceci n'était pas prévu. Dora.
J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire?
Êtes-vous fou?
Dans deux jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu le sais bien.
Deux jours, où nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même.
Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant?
Je le pourrais si l'organisation le commandait.
L'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que les enfants fussent broyés par nos bombes.
Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde. Et la révolution triomphera.
Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière.
Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage.
Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il le frapper aussi?
Oui, s'il le faut.
Alors là, ces débats, c'est vraiment des débats qui sont présents au moment où se structurent les mouvements ouvriers, les mouvements révolutionnaires. Ça commence dans la Russie de 1905, disons. C'est repris par les romanciers russes. La question de la morale, la question des cibles légitimes et aussi la question de l'organisation, de la prise en compte de cette espèce de révolte qui couve dans des couches différentes selon les pays, l'Italie, les États-Unis, la Russie, c'est pas exactement les mêmes gens. Est-ce qu'on les laisse se révolter et faire un peu n'importe quoi? Certains vont finir dans le banditisme, comme la bande à Bono. Ou bien est-ce qu'on les encadre? Et si on les encadre, on les met dans un parti? Est-ce que c'est un parti très... très proches de leur sensation de révolte, comme les anarchistes, ou bien est-ce que c'est des partis très structurés, comme avec les partis communistes? Et il va y avoir là une discussion collective à chaque fois, à travers aussi des textes, mais même des romans, des congrès, pour savoir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est légitime comme violence.
Et le mouvement ouvrier et syndicaliste va peu à peu absorber le mouvement anarchiste qui... a été touché, disait Jean Métron, son grand historien, par une maladie infantile. 1914, ce sera l'effondrement de l'anarchisme. Troisième acte maintenant, Catherine Berthaud-Lavenir, de la scène terroriste, l'après-1919, avec le développement de la radio et puis aussi de la photo.
Alors ça, ça va nous donner l'illusion d'assister à l'acte. Jusqu'ici, on faisait des gravures où on dessinait ça, mais après, là, on va avoir des traces de l'acte.
Vous prenez un exemple dans les cahiers de médiologie. Nous sommes à Radio Paris, c'est un peu inattendu parce que c'est une radio collaborationniste et on l'imagine extrêmement contrôlée. Nous sommes en août 1941 et les premiers membres de la LVF s'engagent pour rejoindre le front soviétique. Et le président du conseil, Pierre Laval, est là, et puis aussi un certain nombre de notables de la collaboration et un journaliste de Radio Paris.
Monsieur de Brinon, qui est en tête des personnalités officielles, s'avance. Il est entouré, je le vois derrière, au deuxième rang, par monsieur Deloncle, par monsieur Déa, par monsieur Laval, qui converse. Les légionnaires forment la haie, les acclament. Je m'approche de monsieur de Brinon. Mais que se passe-t-il?
Messieurs, un attentat. Il vient y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur Laval. On vient de tirer sur Laval, enregistré.
Non, j'ai pas vu, il était parti. J'ai vu les gouttes en tête devant moi.
Mes chers amis, il vient de se passer une chose terrible. Un homme se trouvait à l'angle du portail, dehors, là, et a tiré un coup de revolver, 5 coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de M. Laval et de M. Déa qui venaient de franchir le seuil. On les emmène en ce moment à toute vitesse vers leur voiture. Pierre Laval paraît assez sérieusement touché, le sang coule sur sa chemise. Déa qui paraît également très touché. Il y a d'autres blessés. Oui, voici le commandant que nous avions vu tout à l'heure qui avait fait la visite, qui est blessé au bras. Il passe devant nous en ce moment, il se tient le bras, sa chemise est inondée de sang. Un autre, un légionnaire qui est là, un jeune légionnaire aussi, est atteint en haut du bras lui aussi. Son veston est déchiré. Il y a un officier allemand également qui a sa culotte de cheval traversée par une balle, mais il ne paraît pas atteint. L'homme qui vient de tirer les 5 coups de feu vient d'essayer de retourner l'arme contre son front, mais un légionnaire a lancé un coup de poing violent sur l'avant-bras de l'homme, qui est un grand type roux qui s'était caché parmi les légionnaires, un communiste certainement à la solde de l'étranger. En ce moment, la foule crie à mort, on cherche l'assassin, on essaye de refermer les portes de la caserne. La minute est épouvantablement bouleversante.
C'est tout à fait étonnant, ce ton. On dirait qu'il nous raconte une course cycliste ou un match. Il fait très attention à décrire tout, c'est très visuel, sa description. Mais ça pose une question qui va se poser pour tous les médias de l'immédiateté. Est-ce qu'il faut ou non diffuser ce genre de choses? Alors, il y a la logique interne à la radio. Oui, on était là, c'est un scoop. Et donc, les gens vont avoir envie d'écouter la radio pour être au cœur de l'événement. Mais en faisant ça, on donne un extraordinaire retentissement à un événement. Et si on va 40 ans plus tard, eh bien, on peut se dire que, par exemple, les autorités de l'URSS, la Russie soviétique, avaient décidé que quand il y avait un détournement d'avion, on n'en parlait pas. Donc il y a la question de la tribune qu'on offre.
Sauf votre respect, cet extrait, peut-être, Catherine Berthoud-Lavenir, retravaillé, parce que c'est un avantage pour Pierre Laval, extrêmement impopulaire d'être touché par un attentat. Il va y avoir en retour un mouvement, au moins chez certaines personnes, qui lui sera favorable. Et donc, il y a manipulation aussi par Radio Paris.
Probablement. Je me demande si le petit insert, très certainement un communiste, n'a pas été réinséré ultérieurement. Mais on ne contrôle pas toujours. Hein. On peut attirer la compassion sur la personne de la victime, mais on peut aussi donner une extraordinaire tribune aux auteurs de l'acte.
Dans le quatrième acte de notre scène terroriste, quand intervient la télévision? La télévision, nous sommes dans les années 60-70, imagine peut-être participative, et elle est furieusement contente de montrer la qualité de ses moyens techniques en disant « Voilà, il y a un direct, c'est du live, vous allez voir ce que vous allez voir ».
Alors d'abord, c'est assez difficile de faire du direct à ce moment-là. Donc ça devient quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça a un côté, je dirais pas festif, mais c'est un grand moment de télévision qui va supposer qu'on s'y intéresse, on la regarde. Donc elle a une logique interne, les chaînes ont une logique qui est « on va retransmettre ça ».
Ces moments peuvent durer des jours. Dernier exemple que je vous propose d'écouter et de commenter, nous sommes en septembre, le 9 septembre. 1970, 3 avions sont détournés par les activistes palestiniens du FPLP. C'était les avions qui assuraient les vols Amsterdam-New York de la compagnie El Al. Et ils sont obligés de se poser sur un petit aéroport à Zarqa, à côté d'Amman en Jordanie. Et voilà que la télévision va diffuser pendant des heures et des heures sur 6 jours ce qui se passe en direct sans traduction.
Les passagers sont très bien traités pour l'instant. Nos gardes sont très très gentils. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous, sous les conditions bien sûr. Je répète que les conditions hygiéniques, on ne peut pas les accepter. On nous a promis de nous apporter des vivres, c'est-à-dire qu'on a à manger, mais on n'a pas à boire pour l'instant.
Name, please.
My name is Weiss Michel.
Ladies and gentlemen, many of the Jewish population in the whole world, especially the United States citizens, several of the people aboard the TWA have this dual citizenship.
Ya Jamahir Shabin al-Azim.
Il y a une sorte d'innocence dans ce, un peu tragique même, effroyable, dans cette télévision qui transmet en direct et qui donc se rend complice ou du moins sert le propos des terroristes dont le but est d'obtenir la plus grande audience possible pour un discours qu'ils ne peuvent pas faire écouter par les médias autrement.
Alors après, il y aura formalisation par la télévision. Il ne sera plus comme à l'instant le terroriste parler en direct.
Non, il va y avoir un apprentissage de la part de tout le monde, des polices, des terroristes, des chaînes et des médias en général, qui vont se donner des règles internes. On ne donne pas la parole aux victimes, on n'accepte pas les passages en direct. On ne
montre plus les images sanguinolentes.
On ne montre plus les victimes, on respecte leur nom, etc.
Et ceci va aller de pair avec un contrôle grandissant dans les aéroports. Les deux se répondent.
Alors, avec la construction de ce qu'on appelle une culture de contrôle, tout le monde est contrôlé, les journalistes sont contrôlés dans leurs discours, mais les voyageurs sont contrôlés dans leurs déplacements. Et il y a une espèce de, d'engrenage qui nous amène vers des sociétés beaucoup moins libres et moins innocentes qu'elles ne l'étaient.
Ce sera le thème de la quatrième de nos émissions en prélude à la journée spéciale 6h minuit de France Inter à New York. Jeudi, on parlera de la démocratie face au terrorisme. Et puis, il y a une dernière étape dans laquelle nous sommes, l'étape de l'excès ultime, c'est-à-dire que les terroristes veulent aller plus loin. L'avion n'est plus un moyen de transport qu'on prend en otage, mais c'est un projectile qu'on va jeter sur une cible.
Alors, on a une nouvelle génération technique. On détourne, on transforme une technologie pour une autre. On transforme un avion, moyen de transport, en projectile. Mais c'est l'arme des faibles que de détourner une arme. On choisit, mais sinon, c'est très classique. On choisit une cible prestigieuse et significative. C'est plus une ancienne impératrice d'Autriche, mais ça s'appelle le Centre mondial du commerce. Donc, c'est...
Ou la Tour Eiffel en 1994, voilà. Donc, qui était visée par l'Alger Paris.
Voilà. Donc ça, ce qui fait sens, c'est ce qu'on a choisi. Ensuite, en revanche, comme d'habitude, les terroristes ne vont plus contrôler le discours qui donne du sens à leur acte. Et tout le travail des victimes et de ceux qui les représentent va être de reprendre le contrôle du sens de l'acte.
Mais il faut bien produire de l'excès pour combattre la lassitude de nos habitudes et la sourde satisfaction. Catherine Berthaud-Lavenir, merci d'avoir été des nôtres, que nous avons d'être des survivants face au spectacle du terrorisme que nous observons. Donc une série de 4 émissions avant la journée de vendredi. Et celle-ci est réalisée par Élise Christophe, par Pierrick Monsigny, avec Jacques Sigal, la préparation Franck Olivard, Meryl Moneghetti et Frédéric Martin.